Vous envoyez des messages. Et puis, en règle générale, il y a de plus en plus de repères de là-bas, si j'y suis. On s'en réjouit, bien évidemment. Mais soyez court dans les messages que vous laissez dans la boîte vocale, parce que, voilà, on en reçoit beaucoup et on essaye de tous les passer, mais c'est pas toujours facile. Merci à tous aussi pour l'émission d'hier. Visiblement, ça vous a, ça, comme nous, ça vous a ému, l'histoire de ce qui s'est passé ce jour-là, ce 27 janvier, au Honduras, à Tegucigalpa, capitale du Honduras, lorsque, d'un côté, le président déchu, et déchu sans doute aussi par la même occasion, Mel Zelaya, partait, s'envolait dans son avion, mais c'était pas un vol bien gai, puisque il a été déposé par ce coup d'État du 28 juin dernier, suivi d'élections très très discutables, mais dont les résultats ont été reconnus par assez peu de pays, pratiquement aucun pays d'Amérique latine, mais reconnu par les États-Unis d'Amérique, ce qui fait dire que on entend et on sent comme une odeur de guerre froide qui revient dans cette région particulièrement violente, qui a connu des jours et des années, on peut dire des siècles, particulièrement dramatiques. Le Honduras a été, vous le savez peut-être, la base arrière pour les États-Unis lors des luttes contre les guérillas du Nicaragua, du Salvador et du Guatemala. Il y a d'ailleurs toujours une base militaire importante au Honduras. Et aujourd'hui, on se dit que ce qui s'est passé là est très important, parce qu'après plusieurs années où on a pensé qu'enfin une partie de l'Amérique latine coupait le cordon avec les États-Unis et cessait d'être cette arrière-cour, eh bien, on a l'impression que le vent est reparti dans l'autre sens, malgré l'enthousiasme qu'avait pu déclencher, entraîner l'élection de Barack Obama. Et puis, il y a ce singulier président, Mel Zelaya, homme de droite, homme libéral, grand patron, grand propriétaire, qui a mené, d'une façon tout à fait étonnante, une politique sociale dans son pays, avec succès dans ce très pauvre pays qu'est le Honduras. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté au Honduras, dont 15% dans la très grande pauvreté, avec un taux de chômage évalué à 40%, mais c'est une économie est tellement informelle que je me demande comment on calcule ce genre de pourcentage. Eh bien, il avait installé un certain nombre de réformes qui ont fonctionné, qui ont marché et qui faisaient le bonheur, peut-être un peu beaucoup dire, mais enfin, en tous les cas, un mieux dans la population. Mais une minorité, n'a pas accepté ça, et il y a eu ce coup d'État et les suites que je viens d'évoquer. Alors, il y a eu des dommages collatéraux, bien évidemment, au cours de ces 214 jours de lutte héroïque. Dommages collatéraux, c'est-à-dire des victimes, des morts, des blessés et des disparus, dont on va entendre parler aujourd'hui dans la basse si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Philippe.
Oui.
Tu as entendu parler des nanotrucs, là, les nanotechnologies?
Oui, vaguement, là, c'est quoi ça?
Ben, je sais pas, il paraît qu'il y en a partout maintenant. T'en as dans des boissons, t'en as dans des crèmes, on sait pas où ça va ou.
Partout?
Partout, oui, oui. Mais t'en as forcément entendu parler.
Oui, vaguement, mais bon. Ouais. Pas plus que ça. Mais je pense que si on veut en savoir plus, il faut aller au Café Repère du Vigan chez Christelle et Vincent. Le dernier jeudi de chaque mois Il y a ce café repère qui est absolument génial. Et cette fois-ci, c'est sur les nanotechnologies.